par son titre, hein, c'est « Comment notre monde est devenu chrétien », publié en 2009.
Voilà. Maintenant, livre de poche. Aussi.
Et maintenant, livre de poche. Voilà, merci voilà. Beaucoup.
Merci.
Je laisse la parole.
Bonjour à tous. Alors, je suis l'historienne, comme il a été expliqué, c'est-à-dire que pour nous, la Bible est à la fois un objet de culture, autant qu'un objet de foi, si on est un historien croyant, ce qui est mon cas. Pour vous montrer quand même que je ne suis pas marginale par rapport à l'Église, je suis professeure invitée ici, et c'est même dans cette salle en général qu'à partir du mois de février, je vais faire mon cours sur les trois premiers siècles de christianisme. Mais donc, peut-être que l'approche, et la Bible c'est cela, c'est un objet de culture autant donc qu'un livre de révélation pour les croyants, donc peut-être mon approche serait un peu différente de celle du rabbin qui vous a présenté la Bible hébraïque la semaine dernière. Les points de vue sont nécessairement différents. Alors j'ai hésité à donner un titre, et vous voyez que j'ai employé un pluriel, les Bibles des chrétiens, la Bible des chrétiens. Non, c'est pas possible parce qu'elle est différente suivant les églises. Les Bibles chrétiennes, ça veut dire qu'elles sont différentes les unes des autres. Donc finalement, les Bibles des chrétiens. En effet, donc pour faire la soudure ou la suture avec l'exposé sur la Bible hébraïque que vous avez eu, donc je voudrais rappeler trois préliminaires. Vous avez donc bien dû voir dans la précédente conférence que la Bible n'est pas un livre, bien que le mot Bible veuille dire livre, mais une collection de livres, une collection d'écrits, et qu'en fait, en un certain sens, la Bible des chrétiens ou les Bibles des chrétiens sont un développement de cette collection qui se manifeste donc dans la partition que nous connaissons tous entre Ancien et Nouveau Testament, ce que nous verrons donc dans un premier point. Alors maintenant, donc pourquoi ce pluriel, les Bibles des chrétiens? Parce que suivant les églises chrétiennes, réformées, églises d'Orient au sens large et églises catholiques, là on a un élément de référence important puisque la nouvelle traduction liturgique de la Bible catholique qui sera utilisée dans les lectionnaires à partir de dimanche prochain, premier dimanche de l'Avent, donc, est sortie l'an dernier. Et que le lectionnaire qui va être utilisé à partir de dimanche prochain, donc, présente des traductions nouvelles. Donc, les Bibles, suivant les églises, ce qui change, ça peut être les titres. Par exemple, les églises réformées parlent du livre de la Révélation et non pas de l'Apocalypse. Et également, surtout, l'extension de la collection. Et la Bible la plus étendue, la plus nombreuse en tant que livre, donc, c'est la Bible des Églises d'Orient, qui intègre toutes sortes de, au moins 6 livres qui ne sont pas retenus donc dans les Bibles catholiques ni les Bibles réformées. Donc vous voyez le pluriel. Je ne traiterai pas ce pluralisme en tant que tel. Mais il faut quand même en avoir conscience, surtout à notre époque de démarche œcuménique. Et si vous voulez alors avoir la Bible la plus nombreuse, qui correspond maintenant à celle donc, de la Bible des Églises d'Orient, c'est dans la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, dans sa dernière version, la version du cinquantenaire, qui est parue il y a 2 ans, donc, que vous trouvez aujourd'hui la Bible la plus étendue, la collection biblique la plus étendue, puisque ont été rajoutés, on est passé de 2 livres des Maccabées à 4 livres des Maccabées, on a rajouté le livre d'Esdras. Vous voyez, c'est aussi une collection mouvante, ça va peut-être vous étonner, mais ça reste une collection mouvante. Donc ça, c'était le second préliminaire. Et le troisième, donc préliminaire introductif, toujours pour faire la suture avec la conférence Bible hébraïque que vous avez eue, c'est que, évidemment, les Bibles chrétiennes se lisent par rapport à la Bible hébraïque. Et cette lecture en écho, c'est ce qu'on appelle donc l'intertextualité. C'est-à-dire, les Bibles chrétiennes utilisent la formulation, les images, les figures de la Bible hébraïque. Et là, j'avais une journée assez chargée, donc je n'ai pas apporté d'exemplaire de la Bible, mais dans toute Bible confessionnelle, la Tobe, la Bible de Jérusalem, par exemple, vous avez toujours en marge des références à d'autres livres bibliques. Donc la démarche, et la démarche d'ailleurs qui est conseillée actuellement, d'un point de vue pastoral, c'est de lire la Bible, de lire un texte biblique en intertextualité et en utilisant donc ces notes que vous avez en marge. Donc voilà ce que je voulais souligner pour les préliminaires introductifs. Alors maintenant, donc, le premier point, évidemment, où entrer, la Bible, ce qu'on appelle la Bible, est en fait une collection de livres, une collection variable, et dans le temps et suivant les églises concernées. Donc, quel est le contenu donc, de cette collection? Et ça nous amène à la question donc, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, le premier point à souligner, qui est important, c'est que ce que nous appelons, ce que les chrétiens appellent le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, ce n'est pas la Bible hébraïque. Il faut les noter comme ça. Ce n'est pas la Bible hébraïque. Premier point à prendre en compte, ça ne pouvait pas être la Bible hébraïque. En ce sens que la Bible que lisait Jésus, la Bible que lisaient les apôtres galiléens, n'est pas la Bible hébraïque d'aujourd'hui. Qu'on pourrait dire de façon un peu simplée, enfin, je ne vais pas empiéter sur le terrain des autres, mais disons d'un point de vue, la Bible objet de culture, c'est la Bible rabbinique, la Bible talmudique, celle qui se met en place donc à partir de la fin du deuxième siècle de notre ère. Donc la Bible qu'utilisait Jésus, qui devait d'ailleurs savoir lire, la Bible qu'utilisait Jésus, la Bible qu'ont utilisé les apôtres, nous ne savons pas exactement comment elle était composée. C'est-à-dire au moment, à l'époque de Jésus, où nous avons des informations assez multiples, assez diversifiées. Il y a un texte, la Bible des Samaritains existe déjà. Les manuscrits de la Mer Morte trouvés à Qumran ont donné aussi beaucoup d'éléments donc, pour comprendre ce qui pouvait entrer dans la Bible telle que la lisait Jésus. Il y a aussi des interrogations. Par exemple, saint Paul nous cite comme des extraits de l'Écriture, comme des extraits de la Bible. Saint Paul, un pharisien, un érudit biblique, cite donc comme des références à la Bible, à la Bible hébraïque, des textes que nous ne connaissons plus. Donc, la Bible du temps de Jésus, c'est pas la Bible hébraïque d'aujourd'hui. Alors, aussi, ce qui a rendu ces textes très instables, on a dû vous le dire, c'est que le texte biblique n'était pas encore vocalisé, il était juste écrit avec les consonnes, il ne sera vocalisé qu'à la fin du IIe siècle. Donc, à partir du moment où les voyelles manquent, on peut rétablir un peu la voyelle que l'on veut, et donc interpréter différemment. Alors, il y avait déjà des ensembles composés. Alors, dans un texte juif, pour garder les chrétiens qui datent de 135 avant notre ère, on nous dit donc que la Bible, ces trois ensembles, la Torah, c'est-à-dire tous les livres qui sont réputés avoir été écrits par Moïse, on a dû donc vous en parler, les cinq premiers livres de la Bible hébraïque actuelle, les prophètes et les autres écrits. Et dans les manuscrits de la Mer Morte, les manuscrits de Qumran, on vous dit aussi qu'il y a trois catégories, mais ce n'est pas les mêmes. Il y a la Torah, évidemment. Il y a les livres historiques et il y a le livre de David, c'est-à-dire les psaumes. Vous voyez, il y a des ensembles constitués, mais qui restent mouvants. Et puis surtout, donc, la dernière catégorie de la Bible du temps de Jésus, les écrits, c'est une catégorie, on se rend bien compte, extensive, où on peut rajouter un peu ce qu'on veut. Alors que les livres des prophètes sont clôturés avec le livre de Daniel, mise en forme en 164, et les livres et la Torah est mise en forme au retour d'exil au VIe siècle. Mais les écrits, ça s'étend, et c'est ce qui fait donc la différence au total que notre Ancien Testament n'est pas la Bible hébraïque d'aujourd'hui. Et alors surtout, à partir du moment où il existe des écrits chrétiens, c'est-à-dire les lettres de Paul, dans les années 50, Paul, bilingue ou trilingue, c'est-à-dire hébreu, grec, latin, pharisien, érudit, spécialiste de la Bible, exégète de métier, c'était ça, un pharisien, un docteur de la loi. Ce qu'il utilise, ce n'est pas la Bible en hébreu, c'est la Bible en grec, la Bible des Septante. Et là, c'est un choix décisif qui n'est pas le sien propre. Toute la littérature apostolique, toute la littérature néo-testamentaire, donc toute l'écriture néo-testamentaire, utilise le texte, la Bible en grec, la Bible des Septante. Alors cette Bible des Septante, c'est une traduction commencée à Alexandrie, au début du IIIe siècle, des livres qui constituaient alors la collection biblique, c'est-à-dire essentiellement la Torah et les prophètes. Et ensuite, on a continué à traduire, et on a rajouté aussi des livres écrits directement en grec, comme le livre de la Sagesse, ce qui illustre le fait donc que la catégorie des écrits était à cette époque-là donc extensible. Donc la Bible des Septante, la Bible en grec, et alors est-ce que je dois rappeler le nom de Septante d'où il vient, hein, un récit fondateur mythique évidemment mis en forme dans le judaïsme alexandrin autour de notre ère, connu par Philon, donc fait de la traduction de la Bible en grec, il s'est échelonné sur plus d'un siècle, hein, mais en fait une opération miraculeuse. Le roi grec a réuni 70, 70 traducteurs, les a plus ou moins enfermés comme un conclave dans une île au large d'Alexandrie. Chacun a travaillé dans sa cellule, qu'on faisait visiter d'ailleurs à l'époque, et au total est sortie une traduction absolument unanime, preuve donc que la révélation en grec avait autant de valeur et de légitimité et de sacralité que le texte originel en hébreu. D'où le nom donc de Bible, donc de nom de Bible des Septante. Alors cette Bible en grec, donc comme je le disais, cette Bible des Septante, c'est une extension de la catégorie des écrits. Donc vous avez des livres qui n'ont jamais retenu la Bible hébraïque, ce sont des livres d'éthique, des livres de sagesse, comme la sagesse de Ben Sirach ou de Siracide, du IIe siècle, le livre de la sagesse tout court, dont on tire toujours des lectures, hein, de ce livre de sagesse dans les liturgies catholiques du dimanche, qui avait pour prête-nom donc Salomon, mais qui date à peu près de l'époque d'Auguste. Des livres de persécution, le premier et le deuxième livre des Maccabées, qui sont intégrés dans la liturgie catholique sous le nom de livre des martyrs d'Israël, ce qui ne fait pas plaisir aux juifs d'ailleurs, hein, faut bien connaître. Des romans bibliques, c'est la catégorie retenue par les exégètes, tels que le livre de Tobit, le livre de Judith, c'est Judith qui décapite Holoferne. Donc, et qui est lu dans les liturgies catholiques pour la Sainte Geneviève, par exemple. Donc, il y a des livres que n'a jamais retenu le canon de la Bible hébraïque. Et il y a aussi des livres de la Bible hébraïque qui ont été allongés avec des épisodes supplémentaires dans la Bible en grec. Par exemple, le livre de Daniel et le livre d'Esther. Donc c'est une Bible beaucoup plus longue, une collection biblique, la Bible des Septante, beaucoup plus longue que la Bible hébraïque, beaucoup plus diversifiée, et c'est cela donc qui donne l'Ancien Testament des Bibles chrétiennes. Avec l'Ancien Testament des Bibles chrétiennes. Alors pourquoi ce refus donc d'intégration dans la Bible hébraïque? On avance en général des raisons culturelles. Quand s'est formé le canon de la Bible hébraïque, c'est-à-dire à partir de la fin du IIe siècle de notre ère, dans une époque donc d'hostilité après les grandes insurrections contre Rome et la persécution qui s'en est ensuivie, le critère national et le critère linguistique rendant compte de l'identité nationale, on a gardé donc que les livres dont on avait le texte en hébreu, et pas ceux donc comme Judith, les Maccabées, etc., dont on ne connaissait, dont ne circulait que le texte grec. Donc vous voyez, notre ancien Testament est beaucoup plus étendu et beaucoup plus diversifié que la Bible hébraïque dont on vous a parlé donc la semaine dernière. Et alors maintenant, donc, le Nouveau Testament, qui est évidemment beaucoup plus réduit en volume, se signale aussi par une diversification encore plus poussée donc, de l'écriture de la Révélation. Alors, vous voyez le classement que je vous propose. Il y a dans le Nouveau Testament donc, des modes d'écriture, de transmission de la Révélation, qui sont héritées du judaïsme, qui sont héritées de la Bible hébraïque. On peut considérer les évangiles comme des écrits fondateurs, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en tête dans les manuscrits à partir du 4e siècle. Donc comme des écrits fondateurs, analogues au livre de Moïse, qui constitue la Torah, donc dans la Bible hébraïque. Est également hérité de l'écriture biblique hébraïque traditionnelle, le livre historique, les Actes des Apôtres, qui sont toujours donc présentés comme le premier livre de l'histoire chrétienne, qui couvre, comme vous le savez, la génération apostolique, et qui sont un peu le pendant donc des livres des Juges, de Samuel, des Rois, des Chroniques, dans la Bible hébraïque. Et puis enfin l'Apocalypse johannique qui clôture donc le Nouveau Testament. Et alors l'Apocalypse en fait c'est un genre culturel, il n'y a pas que des apocalypses bibliques, il n'y a pas que des apocalypses, ces récits de vision, c'est une littérature de persécution consolant d'un présent très difficile à supporter par les visions donc du châtiment du persécuteur et d'un avenir qui sera meilleur. Mais il n'y a pas que des apocalypses juives ou chrétiennes. Le genre est apparu en Égypte antique, en même temps donc qu'il est apparu dans la Bible au début donc du deuxième siècle avant notre ère. C'est une littérature antique pourtant de persécution. Et dans le dans la collection donc de la Bible hébraïque, le prototype de l'Apocalypse, c'est le livre de Daniel, qui est présenté comme un livre de prophète, mais qui est en fait une Apocalypse. Vous connaissez peut-être les thèmes, la chute des empires les uns après les autres, le millénarisme, etc. Et ce livre de Daniel, donc, il est bien daté, sa mise en forme définitive date de 164 avant notre ère. Donc là, vous avez un prototype qui est repris dans toute une littérature juive et chrétienne au tournant de notre ère, avant et après notre ère, et dans le Nouveau Testament, donc, un exemple de cette littérature visionnaire pour tant de persécutions a été conservé. Après, d'ailleurs, je vais y revenir, beaucoup de débats et de difficultés, c'est l'Apocalypse de Jean. Donc là, ce sont les genres d'écriture, de passage de la Révélation, hérité donc de la tradition biblique. Au contraire, encore que tous les exégètes ne me suivraient pas, il faut dire aussi que l'Évangile constitue un mode d'écriture inédit. Mais j'ai préféré garder l'idée que, ouvrant le Nouveau Testament, il constitue donc les écrits fondateurs de la religion nouvelle, comme la Torah, les livres de Moïse, constituent les écrits fondateurs du judaïsme. Alors par contre, ce qui est absolument nouveau, c'est l'utilisation de la lettre, l'utilisation des lettres. On peut parler de lettres, on peut parler d'épîtres. L'épître, c'est la lettre étendue aux dimensions d'un traité, si vous voulez, un petit traité de théologie. La lettre, à son origine, donc c'est davantage l'écrit pastoral. Donc les lettres, c'est aussi, ça relève du fonctionnement des premières communautés chrétiennes. C'est une forme d'expression profane hein, qui crée un lien entre l'apôtre, l'évangélisateur et la communauté qui laisse après son départ. Donc il y a des lettres extrêmement pratiques, comme la plus petite de Saint Paul, l'épître à Philémon. Donc c'est un genre fonctionnel, c'est un genre d'écriture fonctionnelle, tout à fait profane, emprunté à l'administration, emprunté aussi à la correspondance entre philosophes, mais devenu donc un véhicule de la révélation dans le Nouveau Testament, où on a gardé les épîtres de Paul, vous le savez bien, celles de Pierre, celles de Jacques au singulier, celles de Jude au singulier, celles de Jean encore au pluriel, et l'épître aux Hébreux qui a été écrite par un chrétien de Rome, mais dont l'auteur donc reste anonyme. Donc là, vous avez dans l'écriture de la révélation dans le Nouveau Testament quelque chose de très moderne pour l'époque déjà, et même aussi pour la nôtre. Donc, la lettre, c'est un élément de communication. C'est faire passer, ça illustre déjà, avoir gardé les lettres apostoliques, ça illustre déjà donc cette notion de parole vivante qui est tellement au centre des réflexions sur la prédication de l'Évangile et sur la transmission de la révélation dans la réflexion des apôtres et des premières communautés chrétiennes. Donc voilà pour présenter cet ensemble de collections, c'est cet ensemble de livres dans cette collection qui constitue la Bible des chrétiens, avec quelques différences donc, les Bibles des chrétiens, composées d'un Ancien Testament qui n'est pas la Bible hébraïque, qui a son autonomie propre, et donc du Nouveau Testament qui a proprement parlé, donc la première expression chrétienne. Alors le deuxième point maintenant que je voudrais aborder, on considère souvent, donc, bon, le Nouveau Testament, ce sont les textes fondateurs des chrétiens, nous sommes tous d'accord là-dessus, fondateurs en termes de croyance et même en termes d'énoncés dogmatiques, mais souvent considérés également comme fondateurs en termes d'histoire. Et on cherche souvent donc à faire l'histoire des premières générations chrétiennes, des premières communautés chrétiennes, donc à travers ces textes du Nouveau Testament qui s'échelonnent entre les années 50, à ce qui est bien daté, ce sont les épîtres de Paul, hein, qui sont les récits, qui sont les textes chrétiens les plus anciens. Paul était à Corinthe en 52, parce qu'il nous donne un élément de datation par un magistrat romain très précis, et c'est de 52 donc qu'il écrit une lettre aux chrétiens de Thessalonique, la première épître aux Thessaloniciens, qui est donc le texte le plus ancien du christianisme. Et les derniers, donc l'Apocalypse de Jean est également bien daté des années 90, et les textes les plus récents, donc les épîtres à Timothée et à Tite, la deuxième aux Thessaloniciens, suivant les exégètes, où on les date des années 90-100, où on les date donc des années 125. Ça vous donne ainsi un panorama, donc sur trois générations, c'est important, je vais y revenir, sur trois générations, donc c'est sur trois générations que s'échelonne l'écriture du Nouveau Testament. Mais le rapport et le traitement du Nouveau Testament à l'histoire n'est pas simple. Alors déjà, un mot sur le classement des textes. Le classement des textes n'est pas chronologique. Il ne faudrait pas croire qu'on commence par la vie de Jésus à travers les évangiles, qu'on continue avec Paul, évangéliste durant les années 50, qu'on finit avec Jean, avec les textes mis sous le nom de Jean, évangéliste dans les années 90. Le classement n'est pas chronologique. C'est un classement par l'importance. Donc les évangiles sont placés en tête du Nouveau Testament dès qu'on a des manuscrits complets, c'est-à-dire seulement au IVe siècle de notre ère, en tant que texte fondateur. Et en deçà donc du critère d'importance, joue le critère de longueur. Ça peut vous étonner, par exemple, les épîtres de Paul sont classés de la plus longue, l'épître aux Romains, à la plus courte, l'épître à Philémon. Les épîtres de Jean de la même façon. Les actes des apôtres sont avant les épîtres de Paul, bien que Luc, l'auteur, soit un disciple de Paul, parce que c'est plus long que le manuscrit. Après, dans la discussion, si vous voulez, on pourra dire un mot de la manière matérielle dont étaient confectionnés ces livres. Mais donc, on sait que les épîtres de Paul ont été rassemblés en un livre individualisé, au moins à partir des années 115-117, au début du IIe siècle, donc, de notre ère. Et ce livre était plus court que cette première histoire des chrétiens, donc, que sont les actes des apôtres. Donc, c'est banal dans l'Antiquité, donc, de classer les écrits en fonction de leur longueur. Donc, vous voyez, ça n'apporte rien, je dirais, en termes au moins d'histoire, du christianisme, de lire le Nouveau Testament du début jusqu'à la fin. Surtout, ce qu'il faut dire, c'est que dans le Nouveau Testament, l'objectif n'est pas d'écrire une histoire événementielle et factuelle. Oui, il y a un aspect commémoratif dans la foi chrétienne, ne serait-ce que parce que l'Eucharistie est un, est une opération sacramentelle commémorative. Faites ceci en mémoire de moi. Donc il y a bien un aspect, commémoratif. Mais ce n'est pas écrit, l'aspect commémoratif n'est pas, ne sous-tend pas l'écriture du Nouveau Testament et en particulier des évangiles et des actes des apôtres, dans le sens d'être très précis sur les lieux, les dates, ce qui s'est réellement passé, donc les faits et les institutions, mais pour donner donc l'importance de l'événement. On représente l'événement dans sa portée eschatologique, plus donc dans sa portée de révélation du Christ, plus que dans sa précision donc factuelle, locale et chronologique. Donc c'est pour ça que les dates sont tellement floues en définitive. Et il s'agit donc, en représentant les événements, de créer une tradition qui va devenir donc une référence dogmatique, plutôt donc que de rendre compte avec précision d'une histoire. Et donc cela pose certaines lectures peuvent être différentes, ça pose en termes du rapport du Nouveau Testament à l'histoire, ça pose des questions de lecture. Donc je vais sélectionner donc quelques exemples. D'abord, là je vais reprendre les évangiles sous leur autre aspect. Les évangiles constituent un genre d'écriture inédit. Ça, c'est tout le monde le reconnaît, les profanes, les laïcs, les de la culture antique comme les autres, donc, parce qu'elle veut rendre compte que le Jésus reconnu comme Christ, c'est le Verbe incarné, donc l'Évangile doit transmettre la révélation sous forme d'une parole vivante, ce qu'a très bien compris le livre dont on parle tant d'Emmanuel Carrère, même s'il a d'autres défauts. Mais ça, il l'a bien compris. Et l'écrit, c'est une écriture très particulière qui associe donc cette transmission de la parole vivante, avec des sutures, des jonctions de récits plus ou moins importants suivant les évangiles, suivant les quatre évangiles. Donc un genre inédit, donc qui n'a pas du tout non plus pour objet de nous dire, les exégètes font une distinction terminologique entre ce qu'on appelle le Jésus historique et le Jésus de l'histoire. Le Jésus historique, on appelle aussi le Jésus terrestre, ça serait reconstituer le vécu de Jésus. On ne peut quasiment rien en dire, à part sa passion et sa mort. Donc, et les évangiles n'ont pas pour objet, sauf au moment de la passion et du procès et de la mort, de rendre compte de ce Jésus terrestre. Et alors, il reste le Jésus de l'histoire, celui d'une tradition qui le reconnaît comme Christ, et comme incarnation du Logos divin, qui commence avec les évangiles et que développe ensuite toute la théologie chrétienne. Donc, on n'est pas dans l'histoire. Et en particulier, donc, puisqu'on en approche, la nativité, la naissance de Jésus, du Jésus historique, n'intéresse pas du tout les auteurs du Nouveau Testament, ni l'évangile de Luc, ni l'évangile de Matthieu. L'évangile de Luc le présente comme un sauveur universel, celui d'un recensement universel. L'évangile de Matthieu le présente comme un nouveau Moïse, Hérode, servant d'avatar de Pharaon. Donc, c'est faire passer quelque chose du Christ et de l'incarnation donc, du Logos divin, c'est pas du tout rendre compte des conditions et même de la date, puisque les deux récits de la nativité sont contradictoires de 10 ans en termes de date. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas de chez de l'histoire. Alors, et le Jésus historique, encore une fois, n'intéresse pas du tout les auteurs du Nouveau Testament. Paul n'en parle jamais non plus. C'est assez intéressant, d'ailleurs, en termes de foi. Hein. L'inscription de Jésus dans le vécu des hommes, c'est au moment de sa mort, de son procès de sa mort, qu'il se fait dans le Nouveau Testament. Et dans le reste, c'est petit à petit, donc, faire découvrir le Christ. Ce qui rend aussi difficile les choses, c'est la pseudonymie. Alors, je suppose que vous en avez parlé déjà pour la Bible hébraïque, puisque on sait bien maintenant que, par exemple, ce qu'on appelle le livre d'Isaïe, ce n'est pas le livre d'un seul Isaïe, c'est des oracles prophétiques qui s'échelonnent sur 2 siècles. Il y a un Deutéro-Isaïe, Trito-Isaïe, je crois même qu'on arrive au 6e Isaïe, si mes souvenirs sont bons. Donc, la pseudonymie, elle existe, elle est tout aussi répandue dans le Nouveau Testament que dans la Bible hébraïque. En fait, les exégètes sont tous d'accord pour dire qu'il y a juste 6 épîtres véritablement autobiographiques de Paul. Et on distingue donc de ces 6 épîtres autobiographiques des épîtres qu'on qualifie de deutéropaulinisme, c'est-à-dire écrites par des Pauliniens à la deuxième ou troisième génération. C'est ce qu'on appelle aussi les épîtres pastorales, à Tite et à Timothée et à Tite. Et il y a 2 épîtres un peu indéterminées, l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens, que les exégètes s'accordent pour qualifier aussi donc de pseudonymiques. Donc, on a rajouté au corpus, à la collection des épîtres de Paul, d'autres textes écrits par des Pauliniens. Les épîtres apostoliques que j'ai cité tout à l'heure, à Pierre, les épîtres mises sous le nom de Pierre, de Jude, de Jacques et de Jacques, sont également pseudonymiques. Là aussi, tout le monde est d'accord, ce sont des textes qui datent de la fin du 1er siècle et ces apôtres avaient disparu depuis un certain temps. De même, les 5 écrits mis sous le nom de Jean, le 4e évangile, l'Apocalypse et 3 épîtres correspondent donc aux 3 auteurs différents. D'ailleurs, l'auteur de l'épître se nomme présente lui-même comme un ancien, un prêtre si vous voulez. Et donc là, on parle d'école joannique. Parce que c'est ça l'intérêt de la pseudonymie, on a dû déjà donc vous en parler. Il s'agit pas du tout donc de faire un faux et de vouloir s'abriter sous l'autorité de Paul. Donc d'une part, il y a deux raisons. Il y a une raison culturelle, c'est la manière dont on pouvait espérer conserver des textes forcément manuscrits dans l'Antiquité. Vous avez aussi du pseudo-Xénophon, du pseudo-Démosthène, du pseudo-Tacite, du pseudo-Cicéron. Pour conserver un écrit, lui donner les meilleures chances de conservation, je dirais, on essaie de le faire passer dans une collection de manuscrits d'un auteur déjà de référence. On le protégeait ainsi, en quelque sorte. Et ça a été pour les auteurs juifs et pour les auteurs chrétiens, comme pour les auteurs païens, si vous me passez ce terme. Mais évidemment, cette adjonction, on ne la faisait pas à n'importe qui. Et là vient l'autre motivation qui est tout à fait intéressante. On s'affirme ainsi comme paulinien, on s'affirme ainsi comme joannique, ce qui permet aux exégètes donc de parler d'école ou de parler de mouvance. Il y a peut-être 3 Jean différents les uns des autres et sûrement différents par-dessus le marché du Jean, le disciple de Jésus. Mais il y a quelque chose de commun entre eux et il y a une certaine lignée théologique que l'on retrouve chez tous et qui fait parler donc aujourd'hui d'école joannique ou qui fait parler donc de deutéropaulinisme. L'appellation était un peu différente, mais ça revient au même. Les épîtres pastorales, les épîtres aux Colossiens et aux Éphésiens sont la lignée de Paul, mais elles n'ont pas le même caractère autobiographique. Donc évidemment, je suis l'auteur, vous ne l'avez pas dit, mais c'est essentiel mon titre de gloire, surtout ici. Je suis l'auteur d'une biographie sur Paul, d'une biographie historique sur Paul. C'est très différent d'utiliser les épîtres autobiographiques qu'on peut utiliser à la fois comme source pour l'histoire et comme source de théologie, et les épîtres deutéropauliniennes qu'on utilise surtout dans une perspective théologique et pour rendre compte. Il y a un exégète protestant qui a imposé la formule de Paul après Paul. C'est du paulinisme à une autre génération. Donc la pseudonymie est intéressante et essentielle pour mettre en évidence des courants théologiques profonds dans le pluralisme chrétien des origines. Maintenant, sur le plan historique, pour dater les choses, pour rendre compte des communautés chrétiennes à une certaine époque, c'est évidemment beaucoup plus fragile. Donc, on en arrive aux questions de chronologie. Comme je disais tout à l'heure, nous avons 2 repères, les épîtres de Paul et l'Apocalypse, entre les années 50 donc, et les années 90. Alors, le grand débat, c'est de dater les évangiles avant ou après 70, qui, je vous le rappelle, donc, est une date importante, puisque c'est celle donc, de la destruction, de la fin de la guerre des Juifs contre Rome, de la destruction du Temple et de la très cruelle répression donc, qu'ont subi les Judéens à cette date. Pourquoi est-ce une date cette incertitude chronologique est importante pour dater les évangiles, à cause donc d'une question qui fait débat toujours dans le dialogue interreligieux. Les évangiles imputent aux Juifs la condamnation à mort de Jésus, alors que tous les antiquisants savent bien que seul le gouverneur romain avait le pouvoir, enfin l'autorité légale, donc pour condamner à mort. Donc, est-ce que c'est un réflexe d'une écriture des évangiles postérieure à 70 et qui donc accepte la défaite et la chute de. Qui rompt à ce moment-là avec le judaïsme à cause par loyalisme envers Rome, ou est-ce que cette rupture avec le judaïsme est antérieure donc aux événements de 70? C'est l'impact de l'événement. Ici, il y a eu un séminaire tenté il y a 3 ans qui n'a pas donné grand-chose sur le tournant donc qu'a pu représenter 70 dans l'écriture du Nouveau Testament. Alors, la seule chose de sûre, c'est que l'évangile de Luc a été écrit après les événements après 70, puisqu'il y a un passage que vous connaissez peut-être si vous êtes des lecteurs des évangiles, c'est ce qu'on appelle la petite apocalypse, où Jésus annonce les malheurs de Jérusalem. Et dans les évangiles de Matthieu et de Marc, c'est décrit donc intertextualité avec le langage et les références du livre de Daniel. Et dans le troisième évangile synoptique, l'évangile de Luc, c'est tout à fait écrit différemment. C'est décrit avec le vocabulaire des officiers romains et de l'historien juif Flavius Joseph, décrivant donc le siège et la chute de Jérusalem. Donc on peut dire vraiment que le troisième évangile a été écrit après 70. On le pense aussi en général de l'évangile de Matthieu, qu'on situe vers 80, qu'on fait écrire à Antioche. L'évangile de Marc, c'est beaucoup plus incertain. Certains exégètes le situent avant 70 et d'autres après. En tout cas, donc, ces trois évangiles, j'aurais pu le dire plus tôt, Matthieu, Marc et Luc, sont dits synoptiques, c'est-à-dire des évangiles qu'on peut mettre en parallèle. Alors, on avait supposé une source unique, une source Q, Quellen, source en allemand. Maintenant, on a abandonné cette idée-là. Mais en tout cas, donc on peut les mettre en parallèle. Ils travaillent donc sur un fond de tradition commun. Alors que le quatrième évangile, l'évangile joannique, donc, relève d'une autre tradition et s'éclaire au contraire à l'intérieur de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'école joannique. Donc, en pensant toutes les incertitudes, pseudonymie, difficulté de fixer une chronologie, d'établir l'antériorité d'un texte sur un autre, de mettre en relation donc un texte avec un événement, les rapports entre l'exégèse et l'histoire ne sont pas simples. Il y a des questions de méthodologie importantes. Et en fait, il y a plusieurs lectures, plusieurs approches possibles en termes de lecture du Nouveau Testament qui devraient être complémentaires, qu'ils sont de plus en plus, mais qui parfois s'opposent. Alors, il y a la lecture fondamentaliste, lire les textes au premier degré. Jésus est né à Bethléem dans une crèche entourée avec des bergers dans les champs. Malgré les contradictions, puis comme je vous l'ai dit brièvement, on peut redévelopper le thème si vous voulez en discussion, la nativité selon Matthieu ne correspond pas à la nativité selon Luc. Donc le fondamentalisme, c'est cela, c'est lire au premier degré, c'est mettre les évangiles bout à bout malgré leurs contradictions internes pour faire une vie Jésus. C'était l'histoire sainte d'autrefois, abandonnée maintenant dans toutes les formes de lecture, je crois. Et on a pris en compte et on a accepté le fait que la vérité était plurielle et que justement, si 4 évangiles, comme 2 récits de la Genèse d'ailleurs, si le livre de la Genèse conserve 2 récits de la Genèse, s'il y a 4 évangiles pour rendre compte de la prédication de Jésus, c'est que pour les croyants, la vérité est plurielle. mais puisqu'il y a des philosophes parmi vous, cela a aussi conduit la théologie et l'exégèse moderne à relever que l'idée de la vérité unique, c'est une idée grecque, et qu'au contraire, dans la Bible et dans la tradition biblique, la vérité est plurielle. La vérité n'est jamais parfaitement dominée, elle s'approche de plusieurs façons. Alors, deuxième lecture, qui est, je dirais, qui a été longtemps exclusive, qui reste prédominante, qui est la mienne, je dirais, c'est ce qu'on appelle l'approche historico-critique. C'est pas bien joli à dire. C'est-à-dire historico-critique, l'exégèse historico-critique. C'est-à-dire qui fait la part des représentations propres à chaque communauté, l'utilisation des modèles bibliques. Donc, toute l'attentionnalité, tout le système de référence propre à chaque livre biblique qui fait jouer au maximum l'intertextualité, mais qui, une fois qu'on a fait cela, essaie de retrouver un substrat historique. Par exemple, faire une vraie biographie de Paul. C'est quand même possible. Et à cela, donc, s'oppose, devrait être complémentaire, mais s'oppose plutôt l'approche actuelle qui est dominée par la narratologie, de dire la Bible et le Nouveau Testament se situent hors de l'histoire. Ce n'est pas la peine d'y rechercher de l'histoire. Vous n'avez pas de personnages historiques, vous n'avez que des figures donc qui représentent et qu'il faut lire dans une perspective eschatologique. Il n'y a pas d'événements, il n'y a que des récits qu'il faut lire aussi dans une perspective eschatologique. Et donc on ne peut connaître, c'est l'exemple que j'ai donné, on ne peut connaître que le Paul de Luc. On ne pourra jamais connaître... C'est une tendance qui pense qu'on ne peut pas connaître Paul lui-même, on ne peut connaître que le Paul de Luc, on ne peut connaître que le Christ de Jean. On ne peut connaître qu'une présentation et une interprétation donc, des personnes et des messages. Alors, la bonne exégèse historico-critique, elle tient compte donc des deux registres. Oui, c'est un langage dans le Nouveau Testament. Oui, c'est un système de représentation, mais nous pouvons aussi y retrouver au moins des traces et des éléments d'histoire. Donc, vous voyez que le rapport du Nouveau Testament à l'histoire, puisqu'on voulait que j'en parle, n'est pas simple. Alors, le troisième point maintenant à voir, c'est la constitution du canon. Donc, de ce livre... qui est la Bible des chrétiens et qui représente une étape majeure à la fois que dans l'identification, un processus d'unification quand les communautés chrétiennes sont devenues l'Église. C'est ça qui est lié à la constitution du canon. Et également donc une identification chrétienne à la fois vis-à-vis du judaïsme et vis-à-vis des courants déviants du christianisme. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un canon, à moins que le rabbin vous l'ait rappelé. Donc, c'est un mot grec qui signifie la règle. Et donc, un canon, le canon, c'est l'ensemble des textes normatifs qui, aujourd'hui, donc, sont à la fois les textes fondateurs et normatifs du judaïsme, pour la Bible hébraïque, et celle des chrétiens. Et c'est la fixation du canon qui permet de définir la communauté des croyants comme une orthodoxie. Canon, c'est la règle en grec. Orthodoxie, c'est penser droit. Mais tant qu'il n'y a pas de règle, on ne sait pas où est le droit. On ne sait pas où est le penser droit. Donc il ne faut pas penser que, par exemple, que le canon se serait constitué comme expression de l'orthodoxie. C'est l'orthodoxie qui dérive donc d'une opération beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus empirique, de canonisation de certains des écrits chrétiens. Il ne faudrait pas penser non plus que le canon, c'est une opération autoritaire, on ne sait pas d'ailleurs de quelle autorité ça pourrait être, une opération autoritaire, donc la fixation d'une liste de livres, d'une liste d'écrits, d'une liste exclusive et fait une fois pour toutes. Encore une fois, c'est un processus qui se fait en parallèle, ou presque à la même époque, dans le christianisme et dans le judaïsme, et pour lequel, encore une fois, une époque antérieure, les manuscrits de la Mer Morte ont apporté donc des renseignements intéressants. Donc, ce qu'on va voir à partir tout au long du IIe siècle, un processus de canonisation de certains écrits chrétiens qui va aboutir donc à une liste, le canon de Muratori, la première liste fixe que l'on possède, c'est le canon de Muratori qui date du IIIe siècle. Mais le processus, on le voit bien, s'échelonne sur tout le IIe siècle. Alors, quelles en sont les étapes et les modalités? C'est un des sujets sur lesquels on s'intéresse beaucoup aujourd'hui. D'une part, comment pouvaient être conservés les textes? Alors, se pose la question des lectures liturgiques qui a ses partisans et ses détracteurs. C'est-à-dire, on sait que dans certaines communautés, par exemple celle de Corinthe, il y avait déjà, donc, et celle de Rome au IIe siècle, dans les années 160-170, donc vous voyez déjà, pas au début du christianisme, on n'a pas de documents, que les liturgies étaient un peu du même type que maintenant, c'est-à-dire qu'il y avait lecture de textes, commentaires, homélie avant la célébration, enfin comme premier moment de la célébration eucharistique. Et pendant longtemps, donc, on a rapproché cela d'un passage inaugural dans les évangiles synoptiques. Vous vous en souvenez, Jésus, donc, vous vous souvenez peut-être, Jésus à la synagogue de Nazareth, il est dans l'assistance, on lui tend le rouleau d'Isaïe. Il le déroule, il le lit, il le commente en disant « Voilà, les temps annoncés par le prophète, c'est ce que je viens accomplir. » Donc, lecture, homélie, en première phase donc, de la liturgie. Et ça a été présenté pendant longtemps comme le fonctionnement donc, des communautés chrétiennes, attesté ainsi par les évangiles, et qui serait un héritage des liturgies synagogales, ce que les juifs aujourd'hui, les historiens juifs aujourd'hui, ont tendance à contester vigoureusement. Donc vous voyez, la difficulté finalement, c'est toujours de généraliser. On sait que la communauté de Corinthe conservait donc des textes, en particulier les épîtres de Paul, les épîtres de Clément de Rome, qui étaient lus, c'est précisé, au cours des liturgies. On sait qu'à Rome, en 160, d'après Justin de Rome, on lisait avant l'Eucharistie, avant l'offertoire, il y a une sorte d'offertoire aussi, avant l'offertoire et l'Eucharistie, on lisait ce qu'il appelle les mémoires des apôtres, de la vie de tous, c'est les évangiles. Et vous voyez aussi, j'aurais pu parler des titres, les textes qui transmettent la prédication de Jésus, les livres qui transmettent la prédication de Jésus, ne s'appellent pas évangile au départ. L'évangile, c'est la prédication. Paul parle de mon évangile, c'est-à-dire la manière dont il parle du message du Christ. Mais en 160, on appelait ce qui doit être les évangiles, on les appelait mémoire des apôtres, transmis donc dans la mémoire collective. Donc, on associe en général la conservation des textes à l'usage, au fait que les lectures liturgiques ont été une pratique assez ancienne, sans qu'on puisse généraliser. Et alors, après, comment un texte devient-il canonique? Dans la mesure donc, où sa réception, où il circule, ce sont les textes qui circulent le plus, qui sont reçus par toutes les communautés, et qui ainsi donc deviennent consensuels. Et donc ce sont des textes qui font autorité, qui vont ensuite, dont l'ensemble va constituer une collection qui va donner le canon. Alors vous allez me dire, mais comment pouvons-nous ainsi retracer une telle canonisation? Quels éléments nous avons? Eh bien, nous avons une grande chance, c'est que les évêques et les autres futurs pères de l'Église qui écrivent beaucoup, comme tous les gens de l'Antiquité, font énormément de citations. Il faut bien se rendre compte d'une époque où l'écriture est très rare, enfin l'écriture reste quand même rare, et dès que les gens savent quelque chose, quand ils s'écrivent, ils transmettent tout ce qu'ils savent. Donc, un livre l'a bien montré, pour les épîtres, c'est des patchworks de citations. Alors, pour nous, c'est très utile, ça nous montre donc la création de traditions théologiques, et également, ça nous montre, en faisant la statistique des citations, bien sûr, maintenant, ça a été fait par informatique et tout, ça nous montre quels textes sont le plus souvent cités. Et ce sont ces textes les plus souvent cités qui deviennent progressivement, donc, parce qu'ils servent de plus en plus de textes de référence, qui deviennent donc les textes autorisés et finalement donc les textes canoniques. Alors, il y a des ensembles constitués et considérés donc comme canoniques, auxquels on se réfère toujours donc, dès le début du IIe siècle. Et on le sait donc par la bibliothèque de Polycarpe, qui était évêque de Smyrne, qui fut martyr d'ailleurs. Il avait déjà toutes les épîtres de Paul, authentiques et deutéropauliniennes. Il savait que l'épître aux Hébreux n'était pas de Paul. Donc, vous voyez, il y avait déjà des corpus bien... Et alors, l'église de Philippe en Grèce, Philippe en Macédoine, qui est une fondation de Paul, a une collection incomplète de Paul et lui demande donc d'envoyer l'ensemble du livre paulinien, du livre des épîtres de Paul, pour en avoir la collection complète. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionnait. Donc déjà, on ne peut pas dire qu'à cette époque, Paul est une référence pour toutes les communautés chrétiennes, loin de là, parce que certains ne l'aiment pas du tout. Mais on voit déjà, donc, pour une certaine communauté, ces épîtres émargent comme des textes auxquels il faut sans cesse faire référence. Et donc, ça devient un premier ensemble canonique. Donc, il y a un processus comme ça de textes dont la réception est de plus en plus étendue. Mais il y a des textes très débattus. Et l'exemple que je prendrai, donc, des textes que certains veulent imposer, que d'autres refusent absolument, et donc il y a des rencontres d'évêques, on ne parle pas encore de synode, il y a des rencontres d'évêques, auxquelles participent des prêtres aussi d'ailleurs, pour dire ce texte-ci, on le fait circuler, il est normatif ou il ne l'est pas. Et donc l'exemple que je prendrai, c'est le cas de l'Apocalypse. Très tôt, donc, on a gardé quelque chose de l'apocalyptique. On aurait pu le recuser, cette littérature de persécution, hostile au monde tel qu'il est, etc. On aurait pu le récuser. On a voulu garder un exemple de l'approche apocalyptique du royaume de Dieu. Mais ce n'était pas l'Apocalypse de Jean qu'on avait gardé, qui circulait le plus dans un premier temps. C'était un livre intitulé « Le pasteur », une métaphore donc du pasteur, et dont l'auteur était un certain Dermas, un chrétien de Rome. Et il a fallu, donc en 180, une conférence à Rome extrêmement agitée. Donc nous avons eu beaucoup, nous avons plusieurs sources, à laquelle a participé Irénée, Saint-Irénée de Lyon, donc, pour imposer l'Apocalypse joannique, un texte oriental, à la place du pasteur d'Hermas, un texte romain. Donc vous voyez que ça n'a pas été une opération forcément très simple. Et alors... C'est à ce moment-là que s'est posée aussi la question donc de l'identification chrétienne. Ces textes reçus, les textes qui sont devenus majoritaires, qui circulaient de plus en plus, c'est eux qui ont construit l'identité chrétienne, qui ont contribué à construire l'identité chrétienne par la différence. Différence avec le judaïsme, différence entre orthodoxe et hérétique. Différence donc avec le judaïsme. Alors, ça, plusieurs problèmes se sont posés. D'une part, il y avait des communautés chrétiennes qui voulaient une Bible, un livre de révélation, disons, propre aux chrétiens, et essentiellement centré sur les épîtres de Paul. C'était le point de vue donc d'un certain Marcion, un prêtre du nord de l'Asie mineure, dont le courant a duré jusqu'au IVe siècle, ce qu'on appelle les Marcionites. Donc, récuser toute la Bible hébraïque, donc un acte de foi fondamental des chrétiens, le Christ est venu accomplir les prophètes. À partir du moment où on récuse la Bible hébraïque, le Christ crée quelque chose de tout à fait complètement nouveau. Donc, récuser l'enracinement dans le judaïsme, et ça a donné lieu, là encore, à une conférence à Rome, à laquelle a participé donc Polycarpe, l'évêque de Smyrne déjà cité, qui a été le principal fer de lance, donc qui a ferraillé contre Marcion. Mais l'autre problème, ça a été justement donc de se demander quel sort fait à la littérature juive dans sa plus grande extension, qu'est-ce qui était sacré, qu'est-ce qui était révélation, qu'est-ce qui était extérieur. Et c'est là donc que s'est créée au IIIe siècle, repris par saint Jérôme, la catégorie d'hagiographe, donc écriture sainte, c'est ça que ça veut dire en Grèce, pour justement tous ces livres en grec de la Septante que les juifs judaïsants, les juifs hébraïsants plutôt, ne lisaient pas et n'utilisaient pas. Et c'est ce qui donne donc les deutérocanoniques dans les Bibles chrétiennes, catholiques et protestantes actuelles. Et enfin, le dernier point sur lequel la constitution du canon a figé la séparation entre la Bible chrétienne et la Bible hébraïque, c'est que c'est à ce moment-là, et par réaction, c'est bien évident maintenant, que les Juifs ont constitué leur propre canon. Et en fixant un texte immuable, c'est à ce moment-là qu'ils ont vocalisé le texte de la Torah, donc on ne pouvait plus rien y changer, il n'y avait plus d'interprétation possible. Et donc, ce qu'on appelle la tradition massorétique, dont on a dû vous parler, la Bible hébraïque actuelle, elle s'est constituée à partir du second siècle, de la fin du second siècle, en réaction, ça c'est évident, à l'opération antérieure donc de la constitution du canon chrétien, de la Bible des chrétiens. Et donc, c'est ce qui fonde ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que les Juifs eux-mêmes appellent aujourd'hui le judaïsme rabbinique. Et il y a des tentatives à la fois exégétiques et critiques pour distinguer le judaïsme rabbinique fondé sur cette Bible fermée donc à partir du IIe siècle, de la Bible du temps de Jésus qui correspondrait donc au judaïsme synagogal qui n'utilisait pas exactement les mêmes textes donc au temps de la prédication de Jésus. Et le dernier élément donc d'identification chrétienne qui est lié au canon, à la constitution du canon, c'est en fonction de la notion d'orthodoxie. C'est-à-dire désormais, donc, les chrétiens deviennent une communauté du croire, avec une opinion droite, la foi a un contenu précis et fixé et général. C'est tout cela qu'il y a derrière le temps de l'orthodoxie. Et donc, ça crée la différence avec les hérétiques. Les hérétiques sont d'abord des hétérodoxes, ceux qui n'ont pas la croyance droite. Mais là aussi, l'historiographie a fait des grands progrès depuis un siècle. On a longtemps cru que on a longtemps pensé, plus exactement, que les hérésies découlaient des déviances par rapport à une orthodoxie déjà fixée. Et donc un canon déjà fixé. Et puis depuis qu'on associe davantage théologie, exégèse et histoire, on se rend compte que les hérésies, les premières figures dans l'Apocalypse, dans les années 90, les hérésies, en fait, ce sont des opinions qui s'avèrent minoritaires, et c'est de ces opinions minoritaires, le fait de déclager une majorité, qui va conduire au contraire, processus inverse, à la constitution du canon et donc à la définition d'orthodoxie. Donc l'orthodoxie et le canon qui se sont définis par une sélection et des débats, des controverses parfois très dures sur des opinions diversifiées plus ou moins minoritaires et non pas donc le contraire. Alors dernier point donc pour finir, il ne faut pas confondre apocryphe et hérétique. Alors, la littérature apocryphe qui maintenant est publiée, qui comporte des évangiles, les deux plus célèbres étant l'évangile de Thomas, un recueil de paroles de Jésus, et l'évangile de Judas, surtout pour son héros, et puis pour la théologie sous-jacente. Donc il y a des évangiles, il y a des épîtres, il y a des actes des martyrs, que je n'oublie rien, oui, passion. Donc c'est une floraison extrêmement abondante de littérature. Alors ce sont des expressions minoritaires du christianisme et qui comme telles n'ont pas été retenues dans le canon, mais qui n'ont pas été rejetées comme hétérodoxes ou hérétiques, comme l'ont été donc les écrits de Marcion ou de Novatien ou de Valentinien ou de quiconque vous voulez. Donc, et actuellement, donc, dans l'exégèse y compris, l'étude des apocryphes est associée à l'étude du canon pour mieux comprendre donc comment s'est construite l'identité et la pensée chrétienne par rapport donc à des courants qui ont existé et qui finalement donc ne se sont pas imposés. Et maintenant, donc, si vous avez un colloque d'exégète sur les actes des apôtres, on utilisera également les actes apocryphes des apôtres. Donc il y a vraiment. Donc il faut pas faire une assimilation qui serait abusive. Les apocryphes sont des expressions devenues minoritaires du christianisme des premiers siècles, mais qui ont leur importance pour comprendre donc la spécificité de l'identité chrétienne telle qu'elle s'affirme donc à travers la constitution d'un canon à partir de la fin du IIe siècle. Alors dernier point, je m'arrêterai là, je vais avoir été trop longue. Pourquoi ça s'est fait à la fin? Le processus a été lent, hein, tout le IIe siècle. Mais pourquoi ça s'est fait donc au cours du IIe siècle? Parce qu'il y a dans le fonctionnement mémoriel et intellectuel de l'Antiquité un critère très important, ça remonte à Hérodote chez les Grecs, qui est celui des trois générations. Les anciens pensaient que quand on était dans le cadre chronologique des trois générations, on était encore dans le cadre du témoignage direct et donc d'une tradition qui était une tradition oculaire. Ça, vous l'avez très bien exprimé chez Irénée de Lyon, qui évêque de Lyon donc à partir de 177, qui avait donc dû naître dans les années 130, qui dit « J'ai été formé par Polycarpe, première génération, qui a été formé par Jean, deuxième génération, qui a été le disciple de Jésus. » Et donc, trois générations, on est encore dans le cadre de la transmission. C'est pas une question d'oral et d'écrit, il y avait... Depuis Paul, c'était des écrits qui circulaient, mais d'une mémoire continue. C'est encore ça, une expression de la parole vivante aussi. Et à partir de trois générations, pour les anciens, ça devenait impossible. Donc il importait donc de fixer les choses par écrit, d'où la constitution d'un canon s'imposait à partir de la troisième génération chrétienne. Voilà, j'ai sans doute été trop longue, je vous prie de m'en excuser. Oui.
Moi, je croyais que si les pharisiens et les sadducéens se posaient sur la question de la résurrection des morts,
oui,
dans l'évangile,
dans les actes des apôtres aussi, oui.
C'est parce que les pharisiens avaient adopté la Bible grecque, contrairement aux sadducéens, puisque là, le fondement biblique de la résurrection des morts se trouve dans les Maccabées.
Mais qui est rejeté par et qui est toujours rejeté par le judaïsme actuel, puisque comme on l'a rappelé, je suis une des persécutions. Quand on fait des colloques avec des historiens du judaïsme, c'est quelque chose encore de très sensible. Ils accusent les chrétiens d'avoir confisqué, réinterprété donc des livres de leur tradition dans la perspective du martyr, alors qu'eux ne reconnaissent que des victimes. Mais ce qui a changé les choses aussi, c'est justement les manuscrits de la Mer Morte, qui est une communauté religieuse du judaïsme extrêmement rigoriste, assez fermée sur elle-même, et qui, elle aussi, croit en la résurrection. Donc c'est plus complexe, c'est plus complexe que ce que Paul essaie de créer en dressant les pharisiens, en s'appuyant sur les pharisiens contre les sadducéens sur la question de la résurrection. Mais je ne voyais pas où se poser votre question, dans quel sens vous vouliez pousser votre question. Je pense que Jésus lisait la Bible, la Bible hébraïque. Ce que j'ai dit, c'est que les chrétiens ont fait le choix de prêcher l'Évangile en s'appuyant sur la Bible grecque. C'est ça que j'ai dit. Mais là encore, je renvoie au manuscrit de la Mère Morte, à la bibliothèque de Qumran. Ce sont des judéens, ce sont des gens de culture sémitique. Ils avaient la Bible hébraïque, ils avaient les Targoum en araméen, ils avaient aussi la Bible des Septante. Il n'y a pas du tout d'opposition théologique, je dirais, à l'époque de Jésus, entre les différents ensembles bibliques qui circulent. Mais il n'empêche que, parce que je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais... La Bible des Septante est une traduction interprétative. Hein. Par exemple, la notion de très haut, de Dieu très haut, qui est une notion grecque, est centrale dans la Bible des Septante, et reprise d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, n'est pas une notion théologique de la Bible hébraïque. J'aurais pu le dire aussi, les expressions Ancien Testament et Nouveau Testament, vous êtes-vous demandé d'où elles venaient ? C'est une interprétation aussi de la Bible grecque où la notion de testament remplace celle de l'alliance. Parce que dans la Bible hébraïque, donc c'est l'alliance de Dieu avec Abraham, parce que dans le contexte culturel sémitique des Assyriens, des Perses, etc., l'alliance est toujours inégalitaire. C'est toujours le roi tout en haut qui conclut l'alliance avec des gens tout en bas, des peuples tout en bas. Tandis que en grec, l'alliance est une notion égalitaire et réciproque. C'est une symmachia, sym avec, les deux sur le même plan. Et donc les traducteurs de la Bible en grec ont pensé que c'était inconvenant d'établir ce rapport d'égalité et de réciprocité entre Yahvé et le peuple d'Israël. Donc c'est eux qui sont passés de la notion d'alliance à la notion de testament. Donc vous voyez que la traduction en grec, en termes de notion théologique, n'est pas...
Donc on vous remercie pour l'exposé d'un sujet qui est très complexe. La capacité de synthèse que vous avez faite en une heure est impressionnante. J'ai deux questions. La première, c'est... Vous avez mis en avant l'idée que trois générations étaient, permettaient d'avoir un recul, mais aussi d'avoir la même visuelle, que vous avez employé.
Témoin oculaire, oui.
Témoin oculaire. C'est avec ça que vous avez employé exactement. Mais est-ce que ce n'est pas à l'inverse un contre-argument quand on sait que dans cette mémoire, il y a la transformation, où est la limite entre la légende, la fabulation, la réalité? Quand on sait que dans cette réunion, si on en sort, si on la raconte dans une heure, on a une version différente, dans quelques heures, et dans une semaine totalement différente. Et pourtant, on a vécu la même scène. Ce que je veux dire, et vous le pointez bien avec votre exemple sur la condamnation, entre guillemets, des Juifs par rapport à Jésus, exposé, où visiblement il y a eu une falsification, une transformation, je ne sais pas le terme que...
Oui, parce que ce n'est pas vrai historiquement.
Oui, non, j'en suis convaincu, mais...
Non, je veux dire, c'est ça. Donc, l'intérêt, c'est de savoir pourquoi ça
démontre qu'en 100 ans après la Bible a été écrite, mais regroupé en orthodoxie, j'ai compris ce soir, où est l'écueil pour éviter justement la transformation? Et ma deuxième question, là, pour vous, que vous voulez, à quel moment et pourquoi Jésus est le Fils de Dieu dans la Bible?
Dans le Nouveau Testament, il ressort qu'il est le Fils de Dieu à travers sa résurrection et ses miracles, mais
on est avec ma question sur le choix.
choix. Ah, je comprends. Voilà. Je vous rappellerai qu'il a fallu les grands conciles du IVe siècle, après des luttes épouvantables et meurtrières, pour établir que Jésus était fils de Dieu.
C'est 4 siècles, parce que vous ne vous rappelez pas, moi je l'apprends ce soir. C'est 4 siècles après Jésus.
C'est le concile de Nicée, le credo des chrétiens. Et ça n'a pas suffi. Il a fallu encore le concile Nicée 325, le concile de Chalcédoine à la fin du IVe siècle. Et au contraire, le point de vue des historiens religieux, même des exégètes, c'est que la christologie est très faible, enfin est faible durant le IIIe siècle. Jésus est Christ, il est Messie, il est ressuscité. Ensuite, vous avez au IIIe siècle toutes ces, je n'ose même pas dire des querelles, tous ces affrontements sur la nature Christ. Il faudra les conciles du grand concile du IVe siècle. Mais moi qui ai travaillé sur les persécutions, les confessions de foi des martyrs sont extrêmement simples. Je crois en un seul Dieu créateur. J'appartiens à Christ ressuscité.
Mais la notion de Messie et de Christ, elle est antérieure. La pensée même du Messie, elle est antérieure, parce que sinon elle ne serait pas née avant, à ce moment-là. Quand on utilise les textes anciens, et notamment les textes hébraïques, on trouve des traces énormes sur la révélation du Christ, Messie. C'est pas seulement
Jésus,
c'est avant qu'il a été déjà pensé.
Mais oui, en particulier.
Mais c'est important de signaler, parce que sinon ça veut dire que 4 siècles après, on s'est rendu compte qu'il était le Fils de Dieu, etc. C'est pas.
Attention, le Messie n'est pas le fils de Dieu.
Je parle de Messie. Déjà.
Messie. Ouais. C'est d'abord chez Isaïe. Mais pourquoi aussi.
Koumrin, par exemple,
il y a deux Messies.
Ils ont découvert les rouleaux, justement, d'attente de bien avant, exactement comme les Écritures aujourd'hui qui révèlent ce Messie.
Mais attention, le Messie, la conception du Messie est multiforme, là aussi. Oui. À Koumrin, on attend deux Messies. Un Messie royal qui libérera le peuple de la domination romaine et un Messie sacerdotal qui emmènera le peuple d'Israël vers le royaume de Dieu dans une fonction eschatologique. Et vous voyez l'importance donc du débat qu'a généré Marcion quand les courants chrétiens qui refusaient la Bible hébraïque, qui refusaient justement cet enracinement de la révélation de Jésus en Christ par la Bible hébraïque. C'est ça que ça doit marcher.
J'ai aujourd'hui un retour.
Pour compléter, moi, je dirais que c'est tout l'objectif de Jean de commencer son évangile comme il le fait, contrairement aux autres. Il y a une verticalité qu'il n'y a pas chez les autres. Le commencement est à lui faire.
Il a planté des attentes. Mais nous, c'est vraiment le texte fondateur. Oui, mais l'évangile de Jean n'est pas un évangile messianique, n'est pas un évangile dans la tradition messianique de la Bible hébraïque, justement. C'est beaucoup plus grec. Le Logos a planté sa tradition.
Mais disons que, oui. Vous expliquez, avec les conciles, dans ce que j'ai pu apprendre en étant catholique, les conciles, en fait, n'ont pas inventé des choses, n'ont juste, en fait, par rapport à des idées, n'ont juste été telles que là pour donner des repères.
Ah non. Ils ont pris position sur un débat. Et un débat qui a quand même été extrêmement violent.
Oui. Hein. Par exemple, dans l'Église catholique, on n'a pas inventé au XIXe siècle, il y a un concile qui a établi que la Sainte Vierge était.
Pourquoi une. Ça, c'est une question de foi, ce que je ne prononcerai pas. Hein,
c'est juste l'Église qui a dit, voilà, qui a dit, s'il y a des qui n'y croyaient pas, nous, on vous dit, c'est comme vous disiez, une sorte de canon de règles qui peuvent avoir été. L'Église, il y a encore une notion de garde-fou pour rester dans une idée qui est celle de l'Église catholique.
Je pense que ce n'est pas ce que dit le pape François actuellement, hein, que la foi se recompose. dans une perspective eschatologique et une recomposition constante depuis les origines jusqu'à la fin des temps.
Et la notion de fils de Dieu, on n'a pas parlé du mot rédemption. Est-ce que c'est
quelque... Ben, non, je dois présenter la Bible. Je ne suis pas entré dans les concepts.
Non, mais tout à l'heure, on évoquait fils de Dieu, Messie. Est-ce que la notion de...
Parce que là, c'est important dans la composition de la Bible, qui n'a pas, de la Bible des chrétiens, qui n'a pas été évidente. Encore une fois...
Le prophète Ésaïe, par exemple, ou les prophètes Ésaïe, on le retrouve bien dans le côté du judaïsme et dans le côté du christianisme. Les Ésaïe, le multi-écrivain, le texte d'Ésaïe 53, par exemple, qui parle clairement d'un Messie souffrant.
Oui, le serviteur souffrant. Le serviteur souffrant.
Ça pose un problème de lecture dans les synagogues parce qu'effectivement, ils considèrent que peut-être c'est le peuple juif, mais en termes de sémantique, ça ne correspond pas. Donc, parce que ce n'est pas possible que ce soit le peuple juif à cause de la grammaire utilisée dans le texte hébreu.
Vous savez, ça, c'est
mais
des.
Il y a bien une notion de Messie souffrant. Donc, après, il y en a d'autres dans deux textes. Il y a un texte dans la lecture messianique de ce texte.
Oui, il y a une lecture messianique et chrétienne de ce texte.
C'est pas le texte lui-même.
C'est pour ça qu'avec le dialogue.
Il y a une interprétation messianique, mais ce n'est
non,
pas.
Non, mais vous pouvez le lire, après on peut dire ce qu'on veut, mais quand on lit, tout le monde comprend quelque chose.
Mais non, mais tout le monde comprend.
Lisez-le.
C'est pour ça qu'il est. C'est difficile quelquefois le dialogue avec les juifs, soit historiens, soit croyants. Pour eux, nous réinterprétons, nous donnons, comme vous venez de le dire, c'est ça la juste formule, nous faisons une lecture messianique de textes dont eux ne font pas une lecture messianique.
De toute façon, il y a une lecture. Mais moi, c'est scientifique. Qui vient par qui n'est pas que scientifique. Quand un prêtre dans l'Église catholique est là pour vous expliquer et commenter les Écritures, c'est pas en tant que scientifique, c'est en tant que prêtre. C'est
alors ça, je n'avais pas parlé. C'est la lectio divina. C'est encore autre chose. Hein. Dire ce qui compte, c'est le contact immédiat sur le texte. Moi, je dirais que ce qu'on me demandait, c'est à l'approche historique. Elle a son importance actuellement dans le dialogue interreligieux. C'est sûr.
Mais excuse-moi, je reviens à ma question. La valeur historique, justement, par rapport aux écrits repris plus de 150, 60 ans après, comment vous appelez ton scientifique par rapport à cette valeur historique ? C'est sur quoi, sur quelle base vous travaillez ?
Par le comparatisme, toujours. Le croisement de documents. Hein. Le principe de la méthode historique, c'est de croiser les documents. Donc, c'est pour cela qu'on sent bien que l'événement historique considéré comme mémorable et digne d'être mémorisé, c'est le procès et l'exécution de Jésus. Et très curieusement, et là encore les avis sont convergents, on pense, parce que vous parliez tout à l'heure du quatrième évangile, c'est vrai que dans une première lecture, on se dit c'est le plus mystique, qui semble le plus loin des réalités historiques, je dirais. Eh bien, c'est le récit de la Passion, des quatre récits de la Passion, c'est le plus historique, le plus facile à croiser avec ce qu'on connaît, donc des pénalités, des modes, les critos, par exemple, le plus enraciné à la réalité historique. Malheureusement, c'est aussi le plus anti-juif, hein, clairement. Oui. Ben, il est bien fait, oui. Il est comme l'avorton de Dieu pour Paul de Caux. C'est des livres bien faits qui savent faire passer donc l'état actuel de la recherche. Oui.
Ça ne vous dérange pas. Vous pensez que c'est une approche historique. Ça ne vous dérange pas, par exemple, qu'il commence son ouvrage en disant c'est précisément que Jésus faisait 1m87 parce que sur le suaire de Turin, on peut le mesurer.
Pas mon point de vue, mais si vous voulez, tout à l'heure j'ai parlé un peu du roman de Carrère, c'est le critère, Carrère utilise dans son, je ne pourrais pas dire roman, dans son livre, le critère du non-impossible. Alors ça, quand on parle, j'étais historien, comme par exemple Jésus est-il né à Bethléem ou à Nazareth, bon. Ou vous dites rien n'empêche de penser qu'il est né à Bethléem, donc il est bien né à Bethléem, et je lis l'évangile au premier degré. Ça, c'est un peu le point de vue de petit-fils, si vous voulez. Moi, le mien serait plutôt, rien n'établit qu'il est né à Bethléem plutôt qu'à Nazareth, donc ça ne me concerne pas et ça ne m'intéresse pas. Et ma foi ne repose pas là-dessus. Et pour le sueur de terrain.
Il y a une distinction à faire entre roman et biographie historique.
Oui, c'est pas une biographie historique, petit-fils, c'est une. C'est un essai sur Jésus. C'est un peu le. Mais enfin, on fait tout ça. C'est un peu le Jésus de petit-fils, ça. Comme le Paul de Luc. Mais c'est bien informé. Où on voit qu'il n'est pas un historien de métier, c'est aussi. On voit qu'il n'est pas un historien de métier et de vocation. C'est un banquier. J'ai rien contre les banquiers, mais c'est. C'est que l'historien, quand même, il fait repousser très loin les limites du miracle. Oui, l'historien croyant croit au miracle, mais vraiment repoussé très loin dans le champ du possible. Lui est assez facilement dans le merveilleux, comme vous le dites, dans le surnaturel. Est-ce qu'il évoque
l'ellipse ? Vous semblez dire qu'il ne serait pas de Saint-Jean, mais de l'école johannique.
Oui, l'école johannique, oui.
Pourtant, Jean dit quoi, Jean ?
Et mais il s'appelle tout Jean. La pseudonymie, c'est ça. C'est prendre un nom pour se labelliser, en quelque sorte.
Peut-être en lien avec ça, quand on
Pardon?
L'oralité des évangiles, est-ce que c'est quelque chose pour vous, en tant qu'historienne, la transmission des évangiles, avant qu'ils soient écrits, par la parole
Encore une fois, les évangiles, souvenez-vous de l'expression de Paul, « mon évangile ». C'est la manière dont je parle de Jésus.
Alors dans ce cas-là, ce que je veux dire, c'est par exemple quand vous dites c'est quelqu'un qui dit qu'il est Jean, mais est-ce que c'est pas effectivement, comme vous disiez, une façon de préserver un écrit, d'inclure dans un auteur majeur, mais aussi de reprendre quand même quelque chose qui a été entendu, ce n'est pas forcément une invention, mais plusieurs témoins.
Non, je. Ouais, bon, pour bien connaître la culture de l'époque, c'est quand même une époque où on écrit beaucoup. Donc je suis convaincue que très tôt, pas mal de gens ont écrit leurs souvenirs, c'est ça, mémoire des apôtres, hein, ont écrit leurs souvenirs de Jésus. Puis qu'après, progressivement, s'est fait ce travail d'écriture. D'ouvrages de synthèse. Alors après se pose le problème que je n'ai pas abordé mais qui est traité depuis le début du XXe siècle quand on dit l'évangile de Matthieu doit avoir été écrit à Antioche, l'évangile de Luc est écrit chez les Grecs, etc. L'évangile de Marc doit avoir été écrit à Rome. Alors après il y a eu des synthèses locales donc correspondant aux besoins d'une communauté qui elle-même devait avoir des souvenirs de plusieurs sources. Ça, c'est une première étape. Et puis ensuite, donc, l'étape de la canonisation.
La canonisation, vous situez autour du 4e siècle, c'est ça ?
Non, deuxième.
Deuxième ?
Hein, entre Polycarpe et Irénée, si vous
voulez. Mais pour causer les conciliations pour l'idée du Fils de Jésus-Christ, c'était autour du 4e siècle, c'est ça ?
Oui, mais on n'a pas changé le.
Non, mais
On a formulé le credo.
D'accord. Et ce credo n'était pas formulé ou écrit ou précisé précédemment, nullement.
Comme je vous disais, les credos qu'on a, c'est les credos des martyrs. Et ils ne parlent jamais du Saint-Esprit.
Ça, hein?
Je crois... quel est ton Dieu, le Dieu unique créateur du monde, et j'appartiens au Christ ressuscité. C'est ça.
Vous
Pardon, est-ce que quelqu'un a fait l'émergement?
Une feuille d'émergement qui discute de la conférence.
J'ai vu de votre côté tout à
l'heure. Qui sort.
Qui ne voit que la narration, c'est un procédé d'écriture dans lequel il ne faut pas chercher de référence historique. C'est ça la narratologie.
En refusant l'histoire, il ne refuse pas la narration.
L'histoire n'est pas une... L'histoire n'est pas une narration, l'histoire telle qu'on la comprend actuellement, l'histoire est la présentation, l'identification de documents. Et pour eux, il n'y a pas de documents dans les récits néo-testamentaires.
On va arrêter là pour la conférence elle-même. Voilà, si vous voulez poser d'autres questions, vous laissez, mais on va parler.